Il est 21h à Conakry et 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Rentrée parlementaire au Niger sans Ama Amadou, les députés sont divisés. La Mauritanie se prépare à travailler demain vendredi, adoptant le week-end universel du samedi-dimanche pour booster sa compétitivité, mais ce n'est pas du goût de tout le monde.
Ce décalage de week-end de la Mauritanie par rapport au week-end universel en fait, a pénalisé beaucoup de gens, et sur le plan économique, et sur le plan social aussi.
Reportage de Brahim Dia à Nouakchott à suivre. Enfin, Save the Children tire la sonnette d'alarme en Sierra Leone. 5 nouvelles infections auraient lieu toutes les heures. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. On commence par le Nigeria. L'armée affirme toujours ce soir avoir tué l'homme qui affirme être Abubakar Shekau, le chef de Boko Haram. Ce dernier est réapparu dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nathalie Barge.
La vidéo obtenue par l'AFP et publiée ce jeudi montre l'homme barbu martelant qu'il est bel et bien en vie et qu'il ne mourra que le jour où Allah lui ôtera le souffle. En tenue de combat assortie de bottes en caoutchouc, Kalachnikov en bandoulière, il ressemble au Shekau vu dans les précédents clips de Boko Haram et parle de la même manière, on ne peut plus animer. Après une démonstration de tir à la mitrailleuse perché à l'arrière d'un pick-up sur fond de musique islamique, il déclame tout sourire, je cite, « Ni Barack Obama, ni François Hollande, ni Benjamin Netanyahu, ni Ban Ki-moon, ni la reine Elisabeth ne me tueront ». Il ajoute que son groupe armé a mis en place la loi islamique stricte dans le nord-est du Nigeria, qu'il qualifie de « califat ». L'armée nigériane a déclaré la semaine dernière que le véritable Shekau était déjà mort et que l'homme des vidéos, qu'elle identifie du nom de Mohamed Bachir, avait été tué au cours de combats en périphérie de la ville de Kanduga. C'est la deuxième fois que l'armée annonce la mort du chef des salafistes avant que Boko Haram n'affirme le contraire dans des vidéos de propagande.
Et toujours au Nigeria, 88 militaires comparaissent devant la cour martiale pour avoir refusé d'affronter les islamistes de Boko Haram. Condamnation politique au Burundi à l'approche des élections de 2015. Le président de la principale coalition d'opposition écope d'un an de prison pour dénonciation calomnieuse contre le parti au pouvoir. Dans une lettre envoyée au secrétaire général de l'ONU, Léonce Nguendakumuna avait accusé le CNDD-FDD de préparer un plan comparable à celui ayant débouché sur le génocide du Rwanda voisin en 1994. Cette tentative de nous réduire au silence sont vaines, a déclaré Léonce Nguendakumuna, qui compte faire appel. Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé affirme avoir tout fait pour préserver la paix en Côte d'Ivoire. Bras droit de l'ex-président Laurent Gbagbo, il s'est présenté comme un partisan de la non-violence au cours de ses audiences de confirmation des charges. La Cour a 60 jours pour dire si oui ou non Blé Goudé doit être poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2009-2010 ayant fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Et le chaos perdu toujours autour de l'aéroport de Benghazi, c'est en Libye. 7 soldats ont été tués et plus de 60 blessés dans 2 attentats et des combats entre l'armée et des milices islamistes. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources militaires. Les milices islamistes tentent de prendre le contrôle de l'aéroport depuis le mois dernier. Par ailleurs, le Conseil de sécurité menace de sanctionner ceux qui mettent en péril la paix et la stabilité de la Libye dans le but de consolider le dialogue initié par l'ONU.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Lutte contre l'État islamique, le Parlement turc a approuvé ce soir à une très large majorité un projet de résolution du gouvernement autorisant l'armée à mener des opérations contre les djihadistes en Syrie et en Irak. Après l'avoir explicitement refusé, la Turquie a fait savoir ces derniers jours qu'elle était prête à rejoindre la coalition militaire formée par les États-Unis. Sur le terrain, au moins 40 djihadistes et 17 membres des forces de sécurité irakiennes sont morts dans 2 attaques de l'État islamique contre des bases de l'armée et de la police dans l'ouest du pays. pays. Le chef de l'exécutif hongkongais, sommé par les manifestants pro-démocrates de démissionner, oppose une fin de non-recevoir tout en présentant une offre de dialogue. « Je ne démissionnerai pas parce que je dois continuer à travailler sur la réforme électorale », a déclaré Leung Chun-ying. De son côté, l'Union européenne a exprimé sa préoccupation face à la situation et appelle toutes les parties à continuer à montrer de la retenue. La suite de Sahel Plus, c'est maintenant.
Retour à la partie magazine de Sahel+. Les parlementaires nigériens sont réunis hier en session pour examiner le budget de l'année prochaine. La session s'est ouverte sans les députés de l'opposition qui ont décidé de ne pas prendre part à la cérémonie. Selon eux, cette convocation est illégale car elle est réalisée par le vice-président au lieu du président. Celui-ci a été mis en examen dans l'affaire présumée du trafic de nourrissons avec le Nigeria et a préféré quitter le pays. La correspondance d'Abdul Razak Idrissa.
Malgré le boycott des députés de l'opposition, la session budgétaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte. Dans son discours, le quatrième vice-président de l'institution n'a pas fait cas de ce boycott. Ben Omar Mohamed s'est plutôt appesanti sur le principal point à l'ordre du jour, à savoir l'examen de la loi des finances portant budget 2015, avant de revenir sur la particularité de cette session.
C'est pour la première fois qu'elle va s'ouvrir en l'absence du président de notre institution. Comme vous le savez, il est impliqué dans une affaire de droit commis en dite de supposition d'enfant. Le 26 août dernier, nous nous sommes acquittés d'un devoir en répondant comme nous l'avons fait, avec comme finalité la mise de l'intéressé à la disposition de la justice par le bureau de l'Assemblée nationale. Cette procédure a eu le mérite de symboliser une grande leçon se rapportant à la pratique démocratique et à l'état de droit. Nous, membres du bureau de l'Assemblée nationale, l'avons fait en âme et conscience, car nous croyons que c'est la seule et unique voie qui pourrait le laver de tout soupçon et permettre d'élucider ce dossier gênant dans lequel notre collègue M. Amadou se trouve impliqué.
Parallèlement à la cérémonie d'ouverture de cette session, les députés de l'opposition expliquaient à la presse les raisons de leur boycott. Haïdara Mohamed, député du MNS de Nassara, le principal parti de l'opposition.
Pour nous, c'est une question de simple bon sens. Nous sommes à l'Assemblée, c'est une chambre où les lois sont votées et les députés sont normalement les premiers à s'inscrire dans le respect des textes de la République. Or, nous avons constaté qu'en violation de l'article 91 de la Constitution, la session du 1er octobre a été convoquée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cet article 91 dit notamment que chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son président. Le président de l'Assemblée nationale a convoqué effectivement la session, mais pour le 7 octobre. Donc les dispositions constitutionnelles en la matière sont assez claires. Pour nous, assister à la session de ce matin, c'est une façon d'être dans l'illégalité. Et l'opposition a inscrit son combat dans le respect des textes de loi et règlements de la République. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur l'illégalité de cette convocation.
Tout cela se passe en l'absence de Hama Amadou, en exil en France depuis quelques semaines. Récemment, le juge lui a décerné un mandat d'arrêt national dans le cadre de l'affaire du trafic de bébés dans laquelle une de ses épouses est présumée impliquée. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
Et vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 94 FM à Arlit au Niger sur la radio Kaosen. C'est officiel depuis hier, 1er octobre, en Mauritanie, les employés et autres travailleurs ne seront plus en week-end les vendredis et samedis, mais bénéficieront de ce qu'on appelle le week-end universel, le samedi et le dimanche. La décision a été prise en Conseil des ministres par le gouvernement. Une harmonisation qui, selon le ministre du Travail, va permettre aux opérateurs économiques et administratifs qui sont liés à l'étranger d'améliorer leur compétitivité. Néanmoins, le nouveau week-end suscite une vive polémique dans le pays. Reportage de Brahim Dia.
Il est clair que le fait de ne pas être au même niveau que nos partenaires économiques nous cause des pertes énormes, a déclaré le ministre du Travail Seydina Ali Oul Mohamed Khouna. Sur l'ampleur de ces pertes économiques, le ministre n'a fourni aucune donnée chiffrée. La justification économique de l'adoption du week-end universel est défendue aussi par certains cadres de l'administration mauritanienne. Taqi Oul Cheikhna est expert comptable et financier.
Nous pensons que ce changement est positif dans la mesure où il pourra justement aider la Mauritanie à réaliser un gain de 20% de temps de transaction avec l'international. Et si bien évidemment l'on se réfère au volume de transactions entre Mauritanie et l'international, on se rend compte qu'un tel changement pourrait avoir un impact positif sur la croissance économique dans son ensemble. Donc ce qui veut dire que ce décalage de week-end de la Mauritanie par rapport au week-end universel en fait, a pénalisé beaucoup de gens, et sur le plan économique et sur le plan social aussi.
Ahmed, enseignant, âgé d'une trentaine d'années, conteste lui la pertinence économique de la mesure.
Les passages au nouveau week-end, je trouve ça inutile parce que ça ne change rien. Parce que travailler 4 heures le vendredi, on ne gagne pas beaucoup de temps par rapport aux autres marchés qu'on est censé gagner. En plus, faire la journée de 9 heures continue, ce n'est pas réaliste. Parce qu'un fonctionnaire normal, un travailleur normal ne peut pas travailler de 8 heures jusqu'à 17 heures. Donc comme ça, si l'argumentaire présenté par le gouvernement, par les nouveaux changements de week-end, c'est de gagner en compétitivité, je trouve que ça, c'est une perte du temps de travail. Parce que personne ne peut travailler 9 heures d'affilée. Donc je trouve ça inutile, vu la façon dont il est présenté.
L'heure de la descente a été écourtée pour le vendredi afin de permettre aux Mauritaniens d'aller à la grande prière hebdomadaire. Pour les autres jours, une pause d'une heure sera fixée. Au-delà de la question de la rentabilité économique du nouveau week-end, il y a un débat religieux qui s'est instauré. Pour le parti islamiste dit modéré, le fait de remplacer le vendredi par le dimanche est un recul face aux acquis nationaux en termes d'identité, de spécificité culturelle et d'indépendance. Fin de citation. Mohamed Ghoulam Al-Hajj Cheikh, député de ce parti, a déclaré que les juifs consacrent le samedi et les chrétiens le dimanche pour leur prière. Quant au RFD, Rassemblement des Forces de Progrès, parti d'opposition, il considère que la décision de passer week-end, samedi et dimanche, est une atteinte au sentiment de tout musulman soucié de la préservation de ses croyances sacro-saintes et de ses acquis culturels. Les arguments religieux en faveur du repos le vendredi ne sont pas partagés par tous. Kissima Diagana, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Tribune.
Donc le week-end dominical en Mauritanie, à chaque fois qu'il est adopté, a souvent fait l'objet, en tout cas, de réactions de la part de ceux qui soutiennent que le vendredi devait être conservé pour des raisons de sacralité. Or, il se trouve que nulle part dans les textes, en tout cas religieux, il n'est recommandé aux musulmans d'observer le vendredi en particulier comme jour férié. Par ailleurs, du point de vue de l'histoire du monde musulman, il n'est inscrit nulle part que des jours fériés ont été observés pour les travailleurs. Par exemple, on peut partir du principe que le calife Omar avait fait observer aux apprenants un férié de mercredi à jeudi qui se terminait le vendredi matin et les apprenants reprenaient leurs études le vendredi. Donc voilà un peu si on devait expliquer la pertinence en tout cas d'un week-end dominical, ce serait pour dire que c'est pour des raisons économiques que les autorités mauritaniennes ont adopté ce système.
Pour l'Union pour la République, parti au pouvoir, les adversaires du nouveau week-end essayent de donner un caractère religieux à une décision gouvernementale purement administrative et économique. Cette décision, selon ce parti, répond aux exigences liées aux impératifs quotidiens de fonctionnement des institutions de l'État sous l'ère de la mondialisation et les contraintes des facteurs de l'économie et du développement qui régissent les rapports de coexistence, d'échange et d'intégration entre les différents peuples de la Terre. Fin de citation. Il est cependant des citoyens qui trouvent ce débat superflu. Vendredi ou dimanche, l'essentiel c'est de travailler et de lutter contre l'absentéisme et les dysfonctionnements de l'administration, dit ce citoyen. Brahim Dia à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
Cri d'alarme de l'ONG Save the Children, on signale au moins 5 nouvelles infections au virus à Ebola en Sierra Leone toutes les heures. Et l'on a recensé au moins 765 nouveaux cas la semaine dernière, alors que le pays ne compte que 327 lits pour les recevoir. Si les donateurs ne se mobilisent pas dans les plus brefs délais, affirme Eric Hazard de l'ONG Save the Children, il sera impossible de juguler l'épidémie.
On a estimé actuellement qu'en une semaine, on a eu à peu près 765 nouveaux cas qui sont apparus dans un pays comme la Sierra Leone. Ça veut dire à peu près 5 nouvelles personnes qui sont infectées chaque heure. Ce que l'on voit dans un pays comme la Sierra Leone, où il n'y a que 327 lits disponibles, si on a 765 nouvelles personnes à traiter en une semaine, la situation devient juste critique et intenable. Et concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, à Freetown, tous les jours, on a nos équipes qui nous rapportent que de nombreuses personnes qui sont malades, qui sont affectées et qui essaient de partir à l'hôpital ou dans les centres de traitement sont obligées de retourner chez elles avec l'infection. D'abord, elles ne peuvent pas être soignées, mais surtout, elles risquent de renforcer la diffusion et la contamination déjà extrêmement exponentielle qui a lieu dans les trois pays les plus infectés que sont la Sierra Leone, le Liberia et la Guinée.
La Grande-Bretagne a promis 700 nouveaux lits à la Sierra Leone, mais entre-temps, où en sont les donateurs ?
On peut dire qu'il y a une forte mobilisation, comme on a rarement dans les crises humanitaires habituelles. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir s'assurer finalement que les ressources qui vont être mobilisées vont être rapidement disponibles sur le terrain. Il y a un mois, les besoins étaient estimés à 100 millions de dollars. Aujourd'hui, on parle d'$1 milliard juste pour couvrir la réponse et les besoins actuels. Et on a à peine 28 millions de dollars qui ont été déboursés. Donc il y a un vrai besoin que l'argent soit mobilisé, surtout délivré, accessible dans les deux semaines qui arrivent.
Mais est-ce que les aéroports sont ouverts ?
On a un corridor qui a commencé à s'ouvrir au niveau du Ghana. Le corridor au niveau du Sénégal, semble-t-il, a commencé lui aussi à fonctionner. Et c'est certainement là que va se trouver la réponse à la crise. Parce qu'aujourd'hui, si l'argent finalement n'est pas la principale inquiétude, même s'il faut qu'elle arrive rapidement sur le terrain, la principale inquiétude, ça va être la capacité, au-delà des finances, d'avoir les bonnes personnes à la bonne place au bon moment. On sait par exemple que les travailleurs, les médecins, les infirmiers ont été finalement les personnels le plus touchés par la crise. En Sierra Leone, près de 10% du personnel médical a été affecté par Ebola. Ça veut dire aujourd'hui qu'on manque cruellement de médecins, on manque cruellement d'infirmiers, on manque cruellement de logisticiens. Et donc, au-delà finalement des ressources qui sont mobilisées, il faut que ce personnel puisse arriver sur place et puisse arriver sur place avec le matériel nécessaire. Et donc, c'est là aussi que la course contre la montre se situe et que les corridors humanitaires, plus que jamais, doivent être activés très sérieusement.
Eric Hazard de l'ONG Save the Children, joint par Camille Gros-Didier. Cell Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Michel Joseph. À la technique, Glenn Van Calio. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons avec Awa Sango. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Ne be jamaruma.
Guatemala.